mon rôle, c'est de, d'essayer de vous expliquer, de prendre un peu la même question sur laquelle Luc a commencé. C'est-à-dire, de mon point de vue, ça va être quelle est l'explication juridique de ce qui nous arrive. On a bien vu l'explication et où on en est d'un point de vue social. Comment on en arrive là ? C'est-à-dire, comment aujourd'hui on accepte, parce qu'on l'accepte, de se retrouver sous le coup de règles juridiques de ce type-là. Le titre qu'on m'avait proposé, la question qu'on m'avait posée, c'était « Entre l'égal et légitime, où replace-t-on les droits fondamentaux ?» Et effectivement, cette question de l'égalité pose la question de la construction du droit et la question de sa réception sociale. On parle de démocratie. La démocratie, c'est simplement la façon de collectivement définir la règle de droit qui sera applicable à tous. Et là, on est dans un cas particulier où on est face à des règles très très particulières et une situation d'urgence sanitaire qui nous impose des types de règles très très particulières. On est dans une situation aujourd'hui, et c'est contesté par personne, d'atteinte aux droits humains, qui est claire et qui est assumée par les lois d'urgence et l'état d'urgence. Droit humain dans lequel on a effectivement aussi le droit à la culture. Alors, historiquement, le droit à la culture, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, l'article 26 sur le droit à l'éducation, mais aussi l'article 27, qui nous dit « Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts ». Alors, c'est un peu vieillot, ça, parce que c'est 48. On a retravaillé ces questions-là et on a aujourd'hui surtout la Déclaration de Fribourg sur les droits culturels de 2007 et qui reconnaît comme un droit essentiel, parmi les droits essentiels à la dignité humaine et partie intégrante des droits de l'homme, le droit à la culture. Donc la question juridique aujourd'hui, c'est comment on peut légitimement porter atteinte à ce droit humain essentiel qu'est le droit à la culture dans ce contexte sanitaire ? Il y a deux réponses, il y a deux éléments de réponse. D'abord, il y a la question de la légitimité de l'existence de ce cadre particulier qui sont ces lois d'exception, que sont la loi sur l'état d'urgence. Et après, il y a une deuxième question qui est, dans ce cadre général de la loi d'état d'urgence, comment sont fixées les règles techniques, pratiques, qui sont annoncées tous les jeudis, soit par le Premier ministre et le ministre de la Santé si c'est des mauvaises nouvelles, soit par le Président si c'est des bonnes nouvelles. Vous avez remarqué, c'est une espèce de répartition des rôles. D'abord, sur la question de la légitimité de la règle, on est dans un droit de la crise. Alors, la crise sanitaire, c'est une question qui s'est posée en fait assez tôt. Pour un juriste, quand on est dans ce cas, voilà, il y a une crise sanitaire, comment on fait pour mettre en place des règles pour prendre en charge cette crise sanitaire ? En tant que juriste, la question juridique avait été construite en 2006, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais je fais une petite parenthèse. Si je vous demandais aujourd'hui quels sont les textes légaux qui fondent tout ce qui nous arrive, je ne suis pas sûr que quelqu'un soit capable, même moi, je n'étais pas complètement capable avant de travailler un peu sur le sujet pour vous, je vous le dis. Alors, je reviens sur mon truc. En 2007, on a une loi qui intervient, qui s'appelle la loi relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur. Alors, ça tombe bien. En fait, quand on est arrivé sur le Covid, on avait le mécanisme juridique qui avait été construit en 2007. Alors, pourquoi 2007 ? Parce qu'on était après la grippe aviaire et autres. Et on nous a... je vous dis les motifs de la loi. La menace d'une... On est en 2006. La menace d'une pandémie grippale qui aurait potentiellement un impact viral pour les 63 millions d'habitants accroît encore l'impérieuse nécessité d'une préparation organisée et planifiée. Et on a un débat au Parlement légitime qui nous dit... Alors, c'est encore une fois les motifs de la loi. La présente proposition de loi... Proposition, donc c'est les parlementaires qui est à l'origine, vise donc à renforcer les moyens de réponse aux urgences sanitaires. Comment on renforce les moyens de réponse aux urgences sanitaires ? A priori, c'est évident, en permettant d'augmenter les ressources en personnel des systèmes de soins, notamment par la mise en place d'un corps de réserve sanitaire, c'était prévu, et en créant un établissement chargé de l'appui opérationnel à la préparation des plans de réponse logistiques et autres. La réponse face à une pandémie, c'est évidemment celle-là. Et elle était préparée depuis 2006 et la loi de 2007. D'ailleurs, ça avait été inscrit dans le Code de la santé publique. Et le Code de la santé publique nous dit la chose suivante, donc depuis 2007, en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la Santé peut, par arrêté motivé, prendre plein de choses. Et quand on regarde ce qui s'est passé, en fait, les premières mesures qui ont été prises sur le Covid sont toutes fondées sur cette loi de 2007, qui donne tout à fait la possibilité à l'État de répondre à la menace sanitaire. La mise en quarantaine des personnes qui revenaient de Wuhan, 30 janvier 2020, a été mise en place comme ça. Les interdictions de réunion de plus de 5000 personnes, puis de 1000 personnes, puis de 100 personnes, c'était sous le régime de cette loi de 2007. La réquisition des masques de protection par les décrets de 12 et 13 mars 2020, c'était aussi ce régime-là. La fermeture des commerces non essentiels sur le premier confinement, avec une réflexion un peu plus intéressante sur l'essentiel et le non essentiel, c'était aussi sous le régime de ce mécanisme-là. Et même le premier confinement du 17 mars a été fondé sur cette loi de 2007. Donc a priori, en tant que juriste, on a ce qu'il faut, depuis 2007, dans le Code de la santé publique, pour répondre à une menace. Et pourtant, le gouvernement, dès le 18 mars, le gouvernement cette fois, dépose un projet de loi, le 18 mars, qui est le projet de loi organique créant un état d'urgence sanitaire. Alors que, donc il s'est dit, il faut qu'on aille plus loin. Alors nous, en tant que juriste, quand on entend état d'urgence, on tique. Alors pourquoi on tique ? Parce que l'état d'urgence, il a une connotation et une histoire qu'il faut que je vous rappelle, parce qu'elle est quand même très particulière. Je vous lis quand même rapidement le motif du projet de loi du 18 mars pour justement aller vers cet état d'urgence sanitaire. Ce nouveau dispositif aurait vocation à créer une gradation en fonction de la gravité des crises entre la simple menace sanitaire, au cours de laquelle le ministre de la Santé serait celle compétent, et l'état d'urgence sanitaire, caractérisé par une catastrophe sanitaire avérée qui ouvrirait la voie à des mesures plus restrictives en termes de liberté. C'est clairement assumé dès le 18 mars. Le gouvernement considère que ça ne suffit pas, les mesures qu'on peut prendre sur la 2007. Il faut porter atteinte plus que ça aux libertés. On ne peut pas... constitutionnellement, il faut qu'on fasse une loi pour pouvoir le faire. Alors, moi, je sais lire, et pourtant, la loi de 2007, elle prévoyait bien, je cite, « La présente proposition de loi vise donc à renforcer les moyens de réponse aux urgences sanitaires, donc pas que la menace, aussi la contamination et l'urgence sanitaire avérée. » Donc la philosophie de ce mécanisme d'état d'urgence, elle est assumée depuis le début, depuis pendant le premier confinement, où là, le gouvernement a travaillé dans l'urgence, c'est porté atteinte aux libertés, avoir plus d'instruments pour réduire les libertés et pour porter atteinte aux libertés sous ce prétexte d'urgence sanitaire. Avec une référence assumée dans le titre, comme dans les dispositions, à la loi, à la fameuse loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence. C'est quoi cette loi de 55 sur l'état d'urgence ? Est-ce que vous vous rappelez ce que c'est ? Parce que quand on sait ce que c'est, nous, quand on a vu ça, on s'est dit, mince, où on va, quoi ? C'est quoi cette loi de 55 ? C'est une loi qui a été prise en Algérie, enfin, qui a été prise par le gouvernement français, pour pouvoir, dans le cas de la crise algérienne d'indépendance, suite au Toussaint sanglant, donc une série d'attentats en novembre 1954, pour pouvoir mettre en place un régime d'exception sur le territoire algérien, pour pouvoir mater la résistance. C'était bien une loi postcoloniale, conçue pour donner des moyens d'ordre public à l'État, pour gérer la situation de révolte locale. Donc c'est un état d'urgence qui peut être décrété en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public. Ce truc a été utilisé en Algérie en 55, 58, 61, 62, 63. Le meurtre d'État de l'avocat et journaliste a été fait sous l'emprise de ce texte-là. Cette loi, on l'a ensuite réutilisée en Nouvelle-Calédonie, en 1985, à l'occasion des incidents liés, encore une fois, au référendum d'autodétermination. On a créé, sur la base de cette loi de 1955, un état d'urgence en Nouvelle-Calédonie, à la demande de Mitterrand. Loi contestée devant le Conseil constitutionnel, et c'est là que c'est intéressant. Le Conseil constitutionnel nous dit « Le législateur peut porter des atteintes, même exceptionnelles et temporaires, aux libertés constitutionnelles, dans le cas prévu par la Constitution. » Il y a l'état de siège en cas de guerre, mais le législateur peut aussi prévoir un état d'urgence. Ce n'est pas anticonstitutionnel. Donc on a ouvert à cette époque-là, on a confirmé que d'un point de vue constitutionnel, on pouvait prendre des lois de ce type-là. C'est la porte ouverte sur laquelle s'est engouffrée, vous allez le voir, cette loi-là. Et à l'idée, à l'époque, c'est de concilier les exigences de la liberté et la sauvegarde de l'ordre public. C'est ça la philosophie de ces lois, hein. Ordre public et liberté. On a réutilisé cette loi une troisième fois, en 2005, les émeutes en banlieue parisienne. Ça avait été très critiqué à l'époque, parce qu'on allait chercher une loi de 1955, qui était une loi postcoloniale, pour mater la rébellion dans les banlieues, symboliquement, c'est quand même assez, assez fort de café. On l'a utilisé une quatrième fois, en 2015, suite aux attentats de Paris. Donc l'idée, c'est clair, on prend des mesures attentatoires aux libertés. Alors c'était quoi ces mesures ? Sécurité et contrôle de l'individu, couvre-feu, interdiction de circulation des personnes, des véhicules dans certains lieux, zone de protection de sécurité, perquisition à domicile sous contrôle d'un juge, contrôle de la presse, des publications et des émissions de radio. On a ouvert la porte en grand pour la question sécuritaire. Et en tant que militant associatif environnemental, on a bien connu cette époque-là, puisque c'était l'époque de la COP21 à Paris, et plusieurs de nos militants ont été empêchés de manifester, ont eu des emprisonnements préventifs, perquisitions, assignations à résidence. Et on a retrouvé dans le bouquin de Hollande, vous savez, son bouquin « Un président ne devrait pas dire ça », je vous cite un extrait de cet ouvrage, donc signé de François Hollande, président à l'époque. « C'est vrai, l'état d'urgence a servi à sécuriser la COP21, ce qu'on n'aurait pas pu faire autrement. Imaginons qu'il n'y ait pas eu les attentats, on n'aurait pas pu interpeller les zadistes pour les empêcher de venir manifester. Cela a été une facilité apportée par l'état d'urgence, pour d'autres raisons que la lutte contre le terrorisme, pour éviter qu'il y ait des échauffourées. On assume parce qu'il y a la COP. » Donc, à partir du moment où on ouvre la porte à des atteintes aux libertés, on ouvre la porte à l'autoritaire, on ouvre la porte à... En tout cas, on doit accompagner ça d'un contrôle assez important de ces mesures-là. Alors, on a le Covid qui arrive. Le gouvernement veut renforcer le code de santé en disant « il faut qu'on mette un état d'urgence ». Il appelle ça état d'urgence, mais bon, il sait bien qu'il ne peut pas aller jusqu'à récupérer la loi de 55. Ça ferait mauvais genre. Pourtant, dans la loi de 55, tout était bon pour qu'on puisse l'utiliser. La loi de 55 nous dit « l'état d'urgence peut être déclaré sur toute ou partie du territoire métropolitain de l'Algérie ou des départements d'outre-mer », donc on peut le faire en France, en France métropolitaine, « soit en cas de péril imminent résultant d'atteinte grave à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant par leur nature et leur gravité le caractère de calamité publique ». Juridiquement, une pandémie, c'est une calamité publique. Juridiquement, pas besoin de prendre une nouvelle loi, on aurait pu, sur la base de la loi de 55, mettre en place ces états d'urgence. Sauf que ça fait un peu mauvais genre. Donc on a fait une loi particulière, qui est la fameuse loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid, adoptée en 5 jours. Hein ? Projet de loi, débat parlementaire, on ne peut pas appeler ça un débat parlementaire, validation des mesures. Et dans cette loi, en gros, on donne à peu près tout pouvoir au Premier ministre et au ministre de la Santé pour mettre en place un état d'urgence sanitaire, pour porter atteinte aux libertés individuelles, habilitation du gouvernement. On nous dit que les mesures doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de lieu et de temps. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Et c'est dans ce texte-là qu'on a ce fameux comité scientifique qui est inscrit, c'est-à-dire qu'on arrête avec toutes les institutions démocratiques. C'est le comité scientifique qui conseille le gouvernement sur les mesures. Donc c'est, juridiquement, c'est le Premier ministre, hein, c'est pas le président. Et surtout, dans ce texte, on pénalise. Le non-respect des mesures qui sont mises en place dans ce cadre-là, c'est des délits. Et c'est des contraventions, mais c'est surtout une délictualisation, c'est-à-dire une criminalisation, dans le sens juridique droit pénal, du non-respect de ça. Alors, le juge constitutionnel a à nouveau été saisi. Évidemment, il y a des parlementaires qui ont dit « Attendez, on a déjà fait des bêtises en 55 sous ce couvert-là. On a montré que jusqu'à la COP21, on l'avait un peu utilisé bizarrement. Qu'en pense le Conseil constitutionnel ?» Et le Conseil constitutionnel valide. Il nous dit « Ok, il y a un principe constitutionnel de liberté, mais il y a aussi un principe constitutionnel de santé. C'est l'article 11 du préambule de 46. La nation garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère, aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Donc sous ce droit constitutionnel de protection de la santé, on va pouvoir porter atteinte à d'autres libertés constitutionnelles garanties, comme le droit à la culture en particulier. Le Conseil constitutionnel nous dit par contre, attention, il faut assurer une conciliation équilibrée. Donc il faut, il y aura quand même un contrôle sur l'équilibre de ça. Et comment on fait ? Il y aura une grille d'examen avec trois questions à chaque fois. Est-ce que la loi porte atteinte à la liberté en cause ? Si oui, par exemple, la liberté, le droit à la culture. Si oui, est-ce qu'elle est justifiée par un motif d'intérêt général constitutionnel ? Oui, la santé ici. Et troisième point, c'est surtout celui-là, l'atteinte à la liberté est-elle proportionnelle à cet objectif ? Donc le seul contrôle que va avoir le juge à partir de cette loi Covid, c'est la question de la proportionnalité entre l'atteinte à la liberté ou aux libertés individuelles et la protection constitutionnelle du droit à la santé. Mais grâce à cette loi, on ouvre la porte en grand à un mécanisme liberticide, mais volontairement et assumé comme ça, dans le cadre de l'état d'urgence. Donc elles sont quelque part légales. Au sens, puisque c'était la question, ces mesures sont légales. Est-ce que, pour autant, le contexte dans lequel elles sont prises, et moi je le dis franchement, hein, juridiquement, avec la loi de 2007, on avait tout ce qu'il fallait pour le faire. Et juridiquement, les premières réponses qu'on était censé apporter à une crise sanitaire, c'est des moyens pour les hôpitaux, c'est la réponse en termes de soins, et on pouvait faire des confinements ou des choses comme ça dans le cadre de cette loi-là. Là, on met en place vraiment, on donne un blanc-seing assez large pour des lois sécuritaires et des dispositions sécuritaires. Donc la deuxième question qui se pose, c'est, sous ce régime-là légal, c'est des décrets, donc des actes du Premier ministre, du ministre de la Santé, qui vont être pris pour mettre en place des mesures. C'est ce qu'on nous annonce tous les jeudis, avec des décrets qui se suivent. La deuxième question, c'est comment sont pris ces textes-là ? Quelle est leur légitimité ? Dans une démocratie, qui prend la règle ? Comment elle est construite collectivement, éventuellement ? Aujourd'hui, le décret en question, on en parlera cet après-midi avec Hélène dans l'atelier sur ça, c'est le fameux décret du 29 octobre 2020 qui réglemente les activités, les rassemblements, les réunions en dehors des lieux privés. Oui, parce que le Conseil constitutionnel avait bien précisé, attention, vous faites ce que vous voulez sur les lieux publics, vous faites ce que vous voulez sur les établissements recevant du public, par contre, les lieux privés, non. Les lieux privés, la loi ne peut pas intervenir dans les lieux privés. Donc dans un lieu privé, si vous faites quelque chose dans un lieu privé, ça sera inconstitutionnel. Moi, j'ai remarqué tout de suite, quand j'ai lu ce texte-là, je me suis dit, tiens, oui, la culture. Chapitre 5, espaces divers, virgule, culture et loisirs. Donc, la liberté et le droit à la culture, dans ces textes-là, quand on voit le titre du texte, on a bien compris le peu de cas qu'on peut en faire. Juridiquement, un droit et une règle, elle est applicable et elle est comprise, et elle est surtout applicable si elle est intelligible, c'est-à-dire si elle est lisible, si elle est compréhensible, et si elle est légitime, c'est-à-dire si elle est éventuellement partagée parce qu'on l'a co-construite. Et le problème, depuis le début, c'est qu'on n'a pas de légitimité et d'intelligibilité de la règle. Moi, je suis désolé, on a fait l'expérience avec Rémi sur cet événement-là aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire ça aujourd'hui dans ces conditions-là ? Eh bien, on en a parlé avec Hélène. Deux juristes expérimentés pour réussir à vous donner la réponse, est-ce qu'on peut faire cet événement-là dans ces conditions-là ? C'est compliqué. C'est très compliqué. Alors que le principe, c'est que le droit, il est compréhensible par tous et que tout le monde peut le comprendre puisque c'est des règles communes qui sont normalement partagées. Je vous rassure, oui, il n'y a aucun problème. Formation professionnelle, vous êtes tous des professionnels du milieu artistique, donc il n'y a absolument aucun problème pour faire ça. Et le problème, il est là, c'est que à force de faire des règles mal expliquées, pas précises, qui sont tellement imprécises qu'on va renvoyer à des tweets du ministère ou à des guides d'explication de la règle, on en rajoute. Et on en rajoute des choses qui sont pas légales, qui ne sont pas réglementaires. Il y a plein de choses dans les guides qui sont stupides, enfin qui sont pas réelles, enfin qui sont pas. Moi, je fais un peu de vélo. Quand pendant le premier confinement, je pars faire du vélo et que le gendarme m'arrête en disant vous pouvez pas faire du vélo, j'ai dit écoute, montre-moi le texte qui dit que je peux pas faire du vélo. Ah mais c'est le ministre des Sports qui l'a tweeté. J'ai dit je suis désolé, moi je suis juriste, un tweet du ministre des Sports c'est pas une règle de droit quoi. Donc il faut aussi arrêter quoi. Enfin. Et malheureusement avec cette technique là, les gens et les activités professionnelles s'auto-censurent. On va pas le faire. Moi, je le vois en milieu associatif. En milieu associatif, on a un guide du ministère chargé du milieu associatif qui a dit « Voilà ce que vous pouvez faire, voilà ce que vous pouvez pas faire. » Moi, je suis désolé, j'ai vu ce guide, je dis « C'est pas vrai. C'est pas du tout ça que dit le texte. Vous en rajoutez. » Moi, je suis désolé. J'ai un salarié associatif. Il a besoin, dans le cadre de son travail, d'avoir un conseil d'administration pour lui donner des orientations de travail. Ça fait partie de son obligation salariale. C'est une activité salariale professionnelle. Et on va faire une assemblée générale où on va faire un conseil d'administration en présentiel sans aucun problème. Donc, on s'auto-censure à cause de ça. Il y a eu des recours hein, sur ces décrets. Il y a 9 recours hein, sur les différents décrets. Tout le monde a contesté devant le Conseil d'État par des procédures de référé. La fermeture des bibliothèques, la fermeture des salles de spectacle, la fermeture des cinémas. C'était rigolo à voir d'ailleurs, en tant que juriste, hein, de voir comment le Conseil d'État allait répondre à ça. Alors le Conseil d'État, il répond à ça qu'en gros, il n'y a pas de problème, quoi, que c'est proportionné parce que c'est temporaire et que l'urgence sanitaire autorise tout. Donc le contrôle du juge, il est à peu près inexistant là, hein, sur la question de la proportionnalité, d'autant plus que le Conseil d'État, juridiquement, juridictionnellement, c'est un truc un peu particulier. C'est un truc un peu politique qui est à la fois le conseiller du gouvernement et le juge de ses actes. C'est la procédure, c'est pas une procédure de jugement au fond, c'est une procédure de jugement en référé, donc en urgence. Donc c'est en gros, il faut juste que le juge regarde s'il n'y a pas une erreur grossière. S'il n'y a pas d'erreur grossière, c'est validé. Donc tout est fait dans le mécanisme pour que les décisions du gouvernement ne soient pas, en tout cas légalement, critiquables. C'est pas pour autant qu'il ne faut pas continuer à les critiquer d'un point de vue légitimité de la décision publique et démocratie. Je vais rapidement là-dessus. J'entendais l'autre jour à la radio un membre du gouvernement, je ne sais plus qui c'était, qui disait « il faut qu'on arrête d'imposer les règles ». Alors moi, je me suis dit « ah, ça y est, ils ont compris ». Elle va finir par dire « il faut qu'on arrête d'imposer les règles, il faut qu'on les construise collectivement pour qu'elles soient comprises par tous ». Et elle finit sa phrase en disant « il faut qu'on arrête d'imposer les règles, il faut qu'on les explique ». Je dis « mais ce qu'on a besoin, ce n'est pas qu'on nous les explique ». Ce qu'on a besoin, c'est qu'on participe collectivement à la construction de cette règle pour qu'on la partage et surtout pour que cette règle soit adaptée à son public. Une règle générale d'un seul texte qui s'impose de la même manière au domaine de la culture, au domaine de l'entreprise, c'est pas possible. On est une diversité d'activités qui ne peut pas être réglée avec une règle générale. Donc c'est la question démocratique de la lisibilité de la règle et de la légitimité de la règle. Si c'est illisible, c'est incontrôlable. C'est ce que font les gendarmes aujourd'hui et la police aujourd'hui. Hein. Vous avez beaucoup on est dans un régime quasi autoritaire à partir du moment où l'organe de police vient vous sanctionner sur une règle qui n'est pas claire. Si la règle n'est pas claire, c'est la porte ouverte à l'autoritarisme et à des sanctions illégitimes. Alors les solutions qu'il faudrait pousser et qu'on essaye de pousser, nous, c'est au lieu d'attendre de façon anxieuse l'annonce au journal télévisé du président pour les bonnes nouvelles, du Premier ministre et du ministre de la Santé pour les mauvaises nouvelles, tous les jeudis soirs, sans qu'on sache ce qui va nous arriver. C'est quand même hallucinant. Hein. Enfin, je veux dire, on est complètement... Les principes de la démocratie, c'est pas ça. Les principes de la démocratie, c'est que on a des représentants, donc la démocratie représentative, qui ont la responsabilité de prendre la règle commune, mais qui ont la responsabilité de la prendre en lien avec les personnes intéressées, c'est-à-dire en intégrant des processus de démocratie participative. Et les processus de démocratie participative, les premiers, c'est la société civile organisée qui sont les interlocuteurs de ces autorités-là. Je veux dire, on est tous, que ce soit en matière d'environnement, en matière culturelle, on a tous fait l'effort de se regrouper dans des collectifs, dans des syndicats, qui portent le message collectif de nos professions, de nos activités. C'est normalement ces syndicats et ces collectifs qui sont l'interlocuteur représentatif de cette société culturelle auprès du ministère de la Culture, par exemple. Et on s'attendait tous à ce que, par rapport aux mesures dans les espaces culturels, musées ou autres, salles de concert et autres, il y ait une consultation et une discussion avec ces organes-là et le ministre de la Culture, et que le ministère de la Culture, après, construise avec le ministère de la Santé les mesures adaptées en responsabilisant tout le monde. Ce n'est pas du tout ce qu'on a fait. On a fait exactement l'inverse. Alors la conclusion de ça, j'ai pas fait de conclusion en fait, parce que je me suis dit, je vais attendre de voir ce que Luc nous dit là-dessus pour rebondir Donc la conclusion, c'est la même que Luc, à laquelle je rajoute la nécessité quand même de résister et de lutter, mais de résister et lutter non pas contre la règle, mais de lutter pour la construction d'une règle collective légitime. Parce que c'est possible de faire une règle collective légitime. Et si on considère que la règle collective est floue, pas claire et illégitime dans sa construction, on est légitime à contester la mise en place de cette règle ou à contester cette règle. Il faut aussi le dire clairement. Alors on est légitime à la contester, éventuellement aussi devant le juge ou devant... c'est-à-dire que si vous êtes sanctionné, contestez la sanction, n'hésitez pas, quoi. Et je reviens sur ma déclaration de Fribourg en conclusion. Dans la déclaration de Fribourg sur les droits culturels, on en parle de ça. L'article 9 nous dit, c'est un principe de gouvernance démocratique, Le respect, la protection et la mise en œuvre des droits énoncés dans la présente déclaration impliquent des obligations pour toute personne et toute collectivité. Les acteurs culturels des trois secteurs, public, privé ou civil, ont notamment la responsabilité, dans le cadre d'une gouvernance démocratique, d'interagir et au besoin de prendre des initiatives pour veiller au respect des droits culturels et développer les modes de concertation et de participation afin d'assurer leur réalisation. Dans cette déclaration, on nous dit bien que pour faire de la démocratie, et de la démocratie culturelle, et pour sauvegarder le droit à la culture, il faut que ça soit une construction démocratique collective. Et ce qui est absolument scandaleux aujourd'hui dans la mise en place de cet état d'urgence et dans ce mécanisme juridique dans lequel on est enfermé, c'est que on peut déjà, l'état d'urgence est critiquable en soi, parce que son utilité constitutionnelle et légale est discutable. Et en plus, son origine de la loi de 55 et sa connotation sécuritaire est très critiquable. Mais en plus, dans le cadre de cette mise en place-là, les règles précises qui sont prises, notamment le décret aujourd'hui d'octobre 2020, sont des règles qui sont illisibles. Et volontairement illisibles pour qu'on nous dise « dans le doute, ne faites pas ». Et combien de fois on a lu dans les guides culturels ces mécanismes, on en a parlé avec Jean-Baptiste parce qu'on est aussi collectif, on est ensemble membre de la coalition pour les libertés associatives, dans lequel on a travaillé sur un rapport sur les atteintes aux libertés associatives, et on avait remarqué très tôt que dans les textes, les analyses que font les ministères pour vous expliquer ce qu'on peut faire ou pas, la conclusion c'est toujours dans le doute ne faites rien. Et comme on a mis en place une règle du doute dans lequel qui est incompréhensible, en gros vous dites faites rien c'est mieux. Il faut au contraire faire. Et c'est l'objectif de l'atelier de cet après-midi avec Hélène, de montrer ce qu'on peut faire, quelles sont les quelques limites qui ont été faites, et de surtout de libérer l'activité et de relibérer l'activité, parce qu'on se contraint beaucoup trop par rapport à ce qu'impose le droit. Merci de votre attention.